Gloire à Dieu. Bienvenue à tous. On est heureux de vous accueillir ce matin. Nous voulons penser à des familles qui sont parties en vacances, d'autres et qui sont malades, que Dieu les bénisse. Et si nous sommes là et si nous sommes debout, c'est parce que Dieu est bon. Hein? Et quelquefois, on apprécie les choses que quand on ne les a plus. On ne sait pas ce que c'est qu'être en bonne santé. Quand on est malade, on se dit « Ouh là là !» Et vous savez, il y a les femmes et les hommes. Les hommes, on est un peu plus douillet. Quand on est malade, on a l'impression qu'on ne va jamais guérir. Hein? Et c'est comme ça, on se dit « Mais je ne me relèverai pas, j'ai entendu des complaintes il n'y a pas longtemps. » Alors on encourage, hein? Mais c'est vrai que merci Seigneur d'apprécier la santé et de dire ce matin merci parce que je suis dans ta maison, dans la communion fraternelle, pour te louer, pour te célébrer. Et pourquoi chercher et nous plaindre de ce que nous n'avons pas et ne pas apprécier ce que nous avons? Vous voyez pas? Alors, ce matin, j'aimerais, parce que comme on arrive à la fin de l'année, il faut que mon exhortation corresponde aux besoins qui sont les nôtres. J'ai pensé qu'arrivant à la fin de l'année, nous devons les uns et les autres rentrer en nous-mêmes, prendre conscience de ce que nous sommes et avoir aussi une vision, un désir, nous projeter, prendre des bonnes résolutions, prendre aussi les bonnes décisions pour que l'avenir soit meilleur. Car même si nous apprécions ce que nous avons ce matin, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, je n'ai pas atteint le but. Si quelqu'un avait atteint le but ici, on le saurait. Hein? Mais on a encore beaucoup de progrès à faire. Mais Paul disait, mais je cours dans cette vocation céleste. Je veux remporter le prix de cette vocation. Et donc, ce matin, j'aimerais que nous ayons ce désir ardent de plaire au Seigneur. Alors, j'ai choisi un texte très connu dans Romains, au chapitre 5, verset 1. Nous lisons ce texte, et je vous amènerai ensuite vers les comportements que nous devons adopter, peut-être nouveaux, parce que nous allons entrer dans une nouvelle année. Alors comme le Seigneur est là pour créer toutes choses nouvelles, c'est ce qu'il a prouvé dans nos vies, en faisant de nous de nouvelles créatures, de nouvelles créations, eh bien croyons que Dieu veut encore faire de belles choses dans nos cœurs. Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Écoutez la suite. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Amen. Avant d'aller plus loin, retenons ceci. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Dieu n'a pas envoyé son Fils, Jésus, mourir à la croix parce que nous le valions. Il nous a aimés alors que nous étions ses ennemis. Et nous devons aujourd'hui réaliser que si le Seigneur nous a aimés alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison nous aime-t-il maintenant que nous sommes ses enfants. Il faut surmonter le doute et les accusations de l'ennemi qui cherche à nous faire croire des choses qui ne sont pas. Mais revenons à mon thème. J'ai souligné quelques paroles de Charles Swindoll, qui était un serviteur de Dieu réputé, et il m'a dit ceci: plus je vis, plus je me rends compte de l'impact de mes actes sur ma vie. Et je crois que ce qu'il dit est une vérité. Ce que nous décidons de faire et ce que nous faisons a un impact sur notre vie. Et c'est pour cette raison que nous devons réfléchir, rentrer en nous-mêmes et faire les bons choix. Le comportement pour chacun d'entre nous est plus important que nos actes, que les circonstances que nous pouvons traverser les uns les autres, que l'échec, que le succès, que ce que les autres pensent, font, disent. Le comportement, c'est plus important que tout ce qui nous entoure. Il est important ce matin de réaliser que ce que nous devons chercher, c'est d'abord de plaire à Dieu et non pas de plaire aux hommes. Nous y revenons dans quelques instants. Notre attitude peut contribuer à faire, à construire une entreprise, à édifier une église ou un foyer, une famille, une maison. Mais notre comportement peut contribuer à démolir cet édifice, à faire du mal à l'église, à faire du mal à notre foyer. Et c'est pour cette raison que nous devons prendre le temps de rentrer en nous-mêmes pour que Dieu nous accorde la grâce de faire ce qui convient. Chaque jour qui passe, nous avons des choix à faire. Et nous avons le choix concernant l'attitude que nous allons adopter dans la journée. Vous savez, quelquefois, on dit d'une personne: oh là là, cette personne, elle est pas bien lunée. Et on dit, elle s'est levée du mauvais pied. Parce que on voit que la personne qui s'est réveillée n'a pas le bon comportement, on la sent agacée. Ça arrive à tout le monde et on ne peut pas toujours expliquer le pourquoi. Il suffit de faire un rêve qui nous agace et le matin, on est un peu agacé, il suffit beaucoup de choses comme cela. Mais, voyez-vous, je crois que le matin, nous qui sommes enfants de Dieu, devons prendre le temps de réfléchir et de nous poser la question: quelle attitude vais-je adopter ce matin, aujourd'hui? Quel va être mon comportement? Vous ne pouvez pas changer le passé et vous ne pourrez pas éviter l'inévitable. Ça veut dire que on ne peut pas éviter ce qui va arriver. Dieu est au contrôle de toutes choses. Cependant, si je ne peux rien changer à mon passé et si je ne peux pas éviter l'inévitable, une chose est certaine: je peux faire quelque chose. La seule chose finalement que je peux faire, c'est de choisir d'avoir un bon comportement. Je suis convaincu que 10% de ce que je suis est la conséquence de ce qui m'arrive. Mais 90% de ce que je suis est le résultat de mes choix. C'est, les gens peuvent vivre dans le même contexte, avoir les mêmes opportunités et avoir des vies complètement différentes. Pourquoi ? Parce qu'ils choisissent à un moment donné d'être différents. Nous sommes responsables de tous nos actes. Nous sommes responsables de nos attitudes. Et quelqu'un a dit: ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est la façon dont nous répondons à ce qui nous arrive. Ce qui compte n'est pas ce que la vie apporte, mais ce que nous apportons à la vie. Mais ce qui arrive, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. C'est la façon dont nous répondons à ce qui arrive. Nous pouvons soit être en colère, révolter, soit faire les mauvais choix, soit vraiment avoir le mauvais comportement ou alors le bon comportement. Regardez, dans la parole de Dieu, il y a des exemples. Quand Lot et Abraham ont dû faire des choix à cause de leurs bergers qui s'étaient disputés, eh bien, ils étaient face aux mêmes circonstances, mais ils n'ont pas eu la même attitude. L'un a choisi de faire le choix de la facilité, l'autre s'est confié dans le Seigneur, mais nous savons que Abraham avait raison. Quand on lit dans l'histoire de Job, Job était malade, mais avec son épouse, ils ont vécu des heures sombres, ils ont perdu des enfants, ils ont perdu leur richesse, et ce n'était pas uniquement Job qui affrontait l'épreuve, mais sa femme aussi. Mais elle dit à son mari, « Maudit Dieu et meurt !» Mais lui, il dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Je crois qu'il est important de voir que les mêmes circonstances peuvent engendrer des comportements différents. Et beaucoup de gens qui ont des facilités, qui viennent de milieux aisés, n'ont jamais dépassé la médiocrité dans la vie. Et pourtant, nous avons aussi d'autres cas, des gens qui ont été dans la misère, qui ont grandi dans la misère, qui ont eu des circonstances difficiles et douloureuses, ont accompli des exploits, des choses merveilleuses, tout simplement parce qu'ils ont eu la bonne attitude. Alors, après vous avoir dit tout cela, je voudrais que l'on entre dans le vif du sujet. Certains ont eu la bonne attitude parce qu'ils avaient la foi, et d'autres n'ont pas eu la bonne attitude parce qu'ils ne croyaient pas. Je crois que pour cette nouvelle année, nous devons adopter les bons comportements. Et le premier comportement que je vous soumets, c'est que pour cette année, cette fin d'année et l'année nouvelle, nous devons être les uns et les autres authentiques. Soyez authentiques. En d'autres termes, nous devons être vrais. Nous devons être réels. Nous devons être aussi nous-mêmes. L'authenticité, c'est une attitude d'honnêteté, une attitude d'humilité. Frères et sœurs, n'essayons pas d'être quelqu'un d'autre. On a l'habitude quelquefois de porter des masques à cause, peut-être, du regard des autres. Mais devant le Seigneur, cela n'a aucune valeur. Soyez la même personne, en public et en privé. C'est vrai que certains vivent une double vie parce qu'ils ne sont pas authentiques. Et ce qu'ils sont en public, ils ne le sont pas en privé. Et nous avons tous besoin de veiller parce que ce mal nous guette tous. Et nous devons vraiment réagir pour pouvoir être vrais en toute occasion. Bien sûr, il ne s'agit pas de s'attendre à être constant dans le sens d'être toujours là, et là ils sont béats, toujours parce qu'ils se forcent à l'être. Il y a des moments où dans la vie il faut savoir aussi baisser la tête, être dans l'humilité, dans la prière, dans la recherche de la face de Dieu, dans la repentance. Mais voyez-vous, il serait plus avantageux pour certaines personnes d'arrêter de jouer la comédie et de pouvoir un peu laisser paraître qu'ils ont besoin de l'aide des autres, car c'est comme cela qu'ils pourront profiter de cette aide, au moins en sachant que telle personne, tel frère, telle sœur a besoin. Nous pourrons, les uns et les autres, la soutenir, les soutenir dans la prière, dans le combat, dans la recherche de la face de Dieu. Et il est facile de cacher des parties secrètes de notre vie aux autres. Mais voyez-vous, plus nous cachons des parties de notre vie aux autres, et plus nous devenons hypocrites, notre comportement et notre vie devient dysfonctionnel. C'est l'expérience de David dans le psaume 32. Vous connaissez ce psaume, il est vraiment extraordinaire. Quand il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Écoutez ce qui suit. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. » Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Et l'Éternel, à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Vous savez, le psalmiste avait commis une faute grave. Et il a voulu la couvrir, la masquer, la cacher. Et il dit ceci, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Ma force n'était que sécheresse. Il refoulait ce sentiment de culpabilité et il essayait de montrer aux autres que tout allait bien. Mais en fait, il était rongé par ce sentiment de culpabilité au point d'en tomber malade. Et voyez-vous, quand on est dans cette attitude-là, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas grandir, on ne peut pas avancer. Il fallait que David règle son problème, et il ne l'a pas fait. Ça a duré pendant 2 ans environ. Vous imaginez, pendant 2 ans, cet homme être rongé par la culpabilité, il refoulait, il ne voulait pas y penser, il rejetait ce sentiment, il avait perdu le sommeil, il était troublé par ce qu'il avait vécu et parce que il refoulait ce sentiment de culpabilité, il était obligé de porter des masques. Il en portait lui-même car il ne voulait pas y penser. Quand il se regardait dans la glace, il évitait de penser à ce qui lui faisait mal. Mais un jour, la Bible dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai été vrai avec toi, Seigneur. Je t'ai montré ce qui n'allait pas dans ma vie. Non pas que Dieu ne le voyait pas, mais voyez-vous, il y a une différence entre le fait que Dieu voit tout et le fait que nous ne lui cachons rien. C'est différent. Or, il a ouvert son cœur. Et au moment où il a ouvert son cœur, alors le Seigneur nous dit que le Seigneur a effacé la peine de son péché. Il a enlevé ça et effacé sa transgression. Moi, je bénis Dieu pour cette grâce extraordinaire que nous avons de pouvoir obtenir la réparation par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Mes frères et sœurs, il ne s'agit pas d'étaler notre vie privée. Si certains cherchent à connaître votre vie privée, remettez-le en place, car il n'y a que le Seigneur qui doit connaître notre vie privée. On a besoin à certains moments d'en parler à quelqu'un de confiance, que Dieu place sur votre route, quelqu'un de confiance, pour pouvoir exposer votre problème, mais n'étalez pas votre vie privée. Certains aiment bien parler aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On sait quand les gens se lèvent, s'ils n'ont pas eu le temps de se raser, si ils ont pris un bain ou s'ils sont allés chez le coiffeur, mais des trucs vraiment qu'on... C'est quoi cet étalage? C'est un petit peu comme si on ouvrait nos maisons, on mettait justement au lieu des murs et des volets, on mettait des fenêtres et des grandes baies vitrées pour que tout le monde voit l'intimité de notre vie. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Mais par contre, si on trouve quelqu'un de confiance pour parler, parce qu'à un moment donné, on a besoin d'une guérison, d'une délivrance, d'un soutien, ça c'est bon. Mais avant toute chose, n'oublions pas que le Seigneur, lui, est notre conseiller, c'est lui, notre médecin, c'est vers lui que nous devons nous tourner. Alors, soyons vrais, soyons authentiques, sans étaler tous les détails de notre vie. Nous voulons être vrais avec les autres. N'essayons pas de paraître ce que nous ne sommes pas, car ça ne sert à rien. Le fait de porter des masques, bien, n'empêche pas la souffrance et au contraire l'accentue, parce qu'en voulant jouer la comédie, eh bien nous ne sommes pas authentiques et nous ne pouvons pas nous épanouir dans le Seigneur. La Bible nous explique que nous avons des progrès à faire et nous explique le comportement que nous devons avoir dans la maison de Dieu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, il est dit ceci au verset 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul parle sur l'amour et il explique ce qu'est le véritable amour. Et il nous montre de quel amour nous devons aimer. Nous devons aimer de l'amour du Seigneur. Alors, bien sûr, je n'ai pas le temps ce matin de développer ce point, mais que dit l'Écriture? Eh bien, l'amour est patient. Il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Et la Bible nous dit que si nous accomplissons l'œuvre de Dieu, et quand bien même nous irions jusqu'à donner notre vie pour les autres, s'il n'y a pas d'amour, c'est du bruit. Ça ne sert à rien. Aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur. Je crois que quand quelqu'un réalise que dans la maison de Dieu règne cet amour et que la confiance naît dans son cœur et que cette personne vient vous trouver pour vous dire, voilà, j'ai besoin de tes prières, j'ai besoin de ton soutien. J'imagine une église vraiment sans ce côté hypocrite, sans ces aspects qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne, où on a la liberté de pouvoir demander l'aide des autres. Mais je pense que quand quelqu'un nous ouvre son cœur, nous ne pouvons qu'être honorés de la confiance que cette personne peut nous faire. Et je crois que nous ne devons pas trahir cette confiance. Nous devons garder pour nous ce que cette personne a pu nous confier, mais en même temps prendre le temps de prier pour que Dieu soit glorifié dans sa vie. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans la communion fraternelle pour nous encourager mutuellement. Et nous sommes là, chacun à sa place, pour que chacun puisse savoir qu'il n'est pas seul dans le combat qu'il mène. Mes frères et sœurs, nous devons être authentiques. Ça ne sert à rien de tricher. Nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous des combats, nous avons tous des luttes, et nous avons tous besoin des autres dans la prière. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, et c'est pour cette raison que que l'apôtre Paul pouvait dire que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et il disait, si je suis ce que je suis, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Alors, je prends cette résolution, je veux être vrai. Allez, arrêtons, jetons les masques. Nous ne nous présenterons pas devant le Seigneur avec des masques, en jouant la comédie, mais notre vie est révélée à la lumière. Lorsque nous nous présenterons devant le Seigneur, son regard va pénétrer les profondeurs de notre cœur, traverser, transpercer nos vies. Mais déjà, c'est une réalité. Laissons le Seigneur porter un regard sur nous. Et puis, le deuxième comportement que je vous soumets pour cette nouvelle année, c'est que nous devons adopter une attitude positive. Et on ne peut pas toujours être de bonne humeur si on s'entretient que de mauvaises nouvelles. C'est une réalité. Si nous n'arrêtons pas de parler de tout ce qui ne va pas dans ce monde, c'est difficile d'être de bonne humeur. Si on est concentré par la fin du monde, par toutes ces choses épouvantables qui arrivent et qui vont arriver, alors ça ne va pas aller. Si nous n'avons pas l'amour pour les âmes qui sont dans ce monde, quelles que soient leurs origines, nous aurons du mal à être dans la paix dans ce monde et surtout à trouver la force pour aller leur annoncer le message de l'Évangile. Je crois qu'il ne faut pas oublier la puissance de Dieu qui est avec nous, frères et sœurs. Cette puissance, elle est révélée, par exemple, dans Matthieu, au chapitre 11, le verset 12, quand le Seigneur dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Bien entendu, il ne s'agit pas ici d'associer cette forme de violence à la violence que l'on trouve dans le monde, mais il est une forme de violence qui est inspirée et communiquée par le Saint-Esprit dans notre vie et qui nous amène justement à bousculer les habitudes et à aller chercher ceux qui sont perdus loin de Dieu, car le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous, nous le croyons. Jésus dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on ne dira pas il est ici ou il est là, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous, et le texte dit même est au-dedans de vous. Oui, le Seigneur est venu établir son royaume dans nos cœurs. Et la Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est comme le levain que l'on met dans la pâte. Vous avez déjà fait du pain? Moi, ça m'arrive de temps en temps à la maison. J'aime bien, je dis, je vais faire du pain. Et donc, là, ces derniers temps, je me suis mis à faire la baguette française, à essayer de trouver comment faire la baguette française. C'est intéressant. Donc, on met du levain, et puis on prend la pâte et on la laisse reposer. Et rien à faire, bon, la pâte, elle lève. Elle lève. Et c'est quand même extraordinaire la comparaison que fait le Seigneur, parce que le levain fait que la pâte travaille en secret. Bien sûr, le levain dans la parole de Dieu, c'est avant tout le symbole du mal, du péché, de l'hypocrisie. Mais dans ce cas-là, le royaume de Dieu, le levain, c'est le symbole de quelque chose qui travaille, même si on n'apporte aucun effort. Et la Bible nous dit, c'est également comme des graines qui ont été semées. Vous semez des graines dans la terre et vous attendez que ça pousse. Vous ne le voyez pas, vous ne la voyez pas. La première fois que j'ai semé quelque chose, j'étais tout jeune serviteur de Dieu, dans cette petite maison qu'on avait là du côté de Bordeaux, à Libourne exactement, à Pomerol. Hein. Il y avait peut-être 10 mètres carrés, même pas, on a voulu mettre de la pelouse. Alors j'ai préparé le sol et j'ai semé la pelouse et puis premier jour, deuxième jour, au bout de 3 jours, j'allais dans un certain endroit, puis je grattais un peu, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y avait rien qui se passait. Je me dis, bon, peut-être que les graines ne sont pas bonnes, ou je ne sais pas quoi. Et puis, c'est l'impatience. On a l'impression qu'il faut que ça pousse d'un coup comme ça, hein, c'est pas vrai? Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut des fois un peu de temps avant de voir le résultat. Mais chose extraordinaire, au bout d'un certain temps, une quinzaine de jours, je ne sais plus exactement, eh bien, il y avait déjà de la pelouse, sauf à l'endroit où j'ai gratté. C'est... Je crois qu'il y a une réalité. On ne peut pas arrêter le royaume de Dieu. On ne peut pas arrêter le royaume de Dieu, pas plus qu'on ne peut pas arrêter les marées, que l'on ne peut pas arrêter le lever du soleil. Vous ne pouvez pas un jour dire, voilà, tous les hommes, on va essayer de se mettre ensemble, on va freiner la rotation de la terre. On ne peut pas. Et bien de la même manière, on ne peut pas empêcher le royaume de Dieu d'avancer, et nous voulons les uns et les autres comprendre ce qui est écrit dans le texte. Nous, justement, le texte que nous avons lu nous montre que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et même, nous nous glorifions dans l'affliction parce que, justement, nous avons cette espérance. Et l'affliction va produire en nous la persévérance jusqu'à obtenir la bénédiction. Vous savez, l'espérance, c'est une attente qui va rendre notre vie bonne. Car dans l'attente, nous pouvons accepter notre présent à cause de l'espérance. Nous acceptons le présent car nous savons que ça ne va pas durer éternellement. C'est un moment difficile, c'est un temps pénible, mais nous allons avoir la victoire puisque le Seigneur le dit dans sa parole. J'adopte donc pour cette année une attitude positive. Je sais que le Seigneur a promis qu'il ne nous abandonnerait pas, qu'il ne nous laisserait pas tomber. Donc, s'il l'a promis, je le crois de tout mon cœur et cela va m'aider. L'espérance voyage au milieu des joies, au milieu des douleurs, au milieu des joies, mais aussi de la tristesse. Et le Seigneur nous accompagne chaque jour. Je voudrais y revenir dans un petit instant, mais je crois que ce matin, les uns et les autres, nous devons réfléchir et penser, soit dans les circonstances que je traverse, je sombre, je chute, je me révolte, je m'attriste, soit alors, je crois, je fais confiance au Seigneur.
Amen.
Parce que je fais confiance au Seigneur, j'ai dans mon cœur une espérance. Et que dit le texte? L'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans l'enfer de Dante, ce n'est pas forcément une référence, mais je le souligne, il est écrit à l'entrée de l'enfer, abandonnez l'espoir, vous tous qui entrez ici. On peut comprendre ça. Que à l'entrée de l'enfer, il est écrit, abandonnez l'espoir, vous qui entrez ici. Parce que finalement, ne pas avoir d'espérance, c'est l'enfer. Ne pas avoir d'espoir, ce n'est pas vivre. Puisque c'est l'espoir qui fait vivre. C'est l'espérance qui nous tient debout. Frères et sœurs, je le disais dernièrement dans une réunion, l'apôtre Paul lui-même expliquait que s'il n'y avait pas dans son cœur cette espérance, si nous n'avions pas cette espérance, nous, enfants de Dieu, nous serions les plus malheureux des hommes. Parce que nous aurions construit notre vie sur du vent. Mais il dit, cette espérance, elle est vivante, elle est réelle.
Amen.
Et le Seigneur est là pour nous encourager. Nous avons une espérance, et cette espérance, nous devons la chérir. Je crois que le Seigneur est venu afin que les siens soient dans la joie, que sa joie soit en eux et que leur joie soit parfaite. Il est venu pour nous accorder cette joie. Mais quand le Seigneur, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, dit à ses disciples, « Je veux que ma joie soit en vous, afin que votre joie soit parfaite », bien, c'est avant de donner sa vie à la croix du calvaire, c'est-à-dire qu'il allait affronter l'épreuve, et il dit « Je vous donne ma joie ». Comment peut-il être dans la joie en sachant qu'il va mourir ? Eh bien, parce qu'il est une joie que rien ne peut enlever dans le cœur de celui qui est dans l'espérance. C'est cette joie de savoir que l'épreuve dure un temps, mais la gloire dure pour l'éternité. Mes frères et sœurs, nous avons dans notre cœur une espérance. Elle est vivante. Et nous pouvons dire, Seigneur, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les douleurs, il y a dans mon cœur une joie que rien ne peut détruire. C'est la joie de savoir en qui j'ai cru. Alléluia. Je crois que, comme le dit le proverbe, un cœur joyeux est un bon remède. Moi, je crois que avoir une attitude positive, un cœur joyeux, c'est mieux que tous les médicaments. Ça aide beaucoup. Je ne suis pas en train de dire ceux qui ont un traitement ne prenez pas de traitement, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais le meilleur des traitements, c'est de pouvoir se positionner dans la foi et de pouvoir dire « Seigneur, en toi, je place toute ma confiance ». C'est pour cette raison que j'arrive à la dernière, pour conclure, la dernière position. Je dis, non seulement, Seigneur, je veux prendre la décision d'être positif, de m'appuyer sur toi, de te faire confiance, mais en plus de cela, Seigneur, ce que je veux, en étant authentique, c'est réaliser que tu es présent dans ma vie à chaque moment, à chaque instant. Parce que ce qui ressort de ce texte que nous avons lu, c'est que le Seigneur est avec nous. Et frères et sœurs, je trouve que ça, c'est extraordinaire. La plus belle des choses, c'est de savoir que le Seigneur est à nos côtés. On est en train de faire une étude le mercredi soir sur le retour de Jésus, les événements. Alors, c'est bien de pouvoir étudier toutes ces choses parce que toute la Bible doit être expliquée, doit être prêchée. Et nous ne devons pas nous contenter seulement de quelques éléments. Mais nous savons aujourd'hui que Jésus va revenir. Est-ce que vous le croyez, vous ? Ben, moi, j'y crois. Il va revenir. Je ne sais pas quand. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être plus longtemps. Mais il va revenir. Mais j'ai une nouvelle encore plus grande que celle-là. C'est que si j'attends le retour de Jésus, en fait, la plus grande nouvelle que celle-là, c'est qu'il est déjà ici. Et ça, on a tendance à l'oublier. Il va revenir me chercher, mais en attendant, il est ici. Il est ici dans ce lieu. Il est présent dans ma vie. Il m'accompagne chaque jour. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Or, la fin du monde, ce n'est pas pour demain. Nous savons que nous pouvons compter sur lui, nous avons de la marge, il a fait cette promesse. Certes, le Seigneur ne peut pas vivre avec nous comme il vivait autrefois, c'était pour un temps. Il est venu vers les hommes, il s'est identifié à eux, il est devenu lui-même homme de Dieu qu'il était, afin de se charger de notre misère et de donner sa vie sur la croix du calvaire. Mais il est remonté au ciel. Je bénis le Seigneur, que le Seigneur ne vive pas en Israël aujourd'hui. Pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui se produit. Depuis qu'il est monté au ciel, il est avec nous, et lorsque deux ou trois se rassemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Il est avec nous, le Seigneur. Et quelquefois, on a tendance à l'oublier. Quelquefois, on a tendance à mettre de côté cette vérité, de penser que parce que tout va mal, et parce que nos prières ne sont pas exaucées comme nous le voudrions, et parce que les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu, c'est que le Seigneur n'est pas avec nous. Mes frères et sœurs, je ne sais pas qui vous met ça dans l'esprit, mais si nous sommes attachés au Seigneur, nous sommes attachés à sa parole, à ses promesses, et ses promesses, c'est qu'il ne nous abandonnera jamais.
Amen.
Imaginez un instant que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'homme, imaginez, cela nous parle de sa puissance. Mais si ce Dieu qui a créé l'homme, qui l'a placé sur la terre, reste dans son ciel, et ne s'occupe pas de l'homme qu'il a créé, et qui a tellement besoin de lui, où est son amour? Nous ne pouvons pas envisager les choses de cette manière-là. Nous ne pouvons pas imaginer que le Seigneur nous a créés et ensuite s'occupe de ses affaires et pas de nous. Nous avons tellement besoin de lui. Il nous a créés avec l'intention de nous assister, de s'occuper de nous, de prendre soin de nous. Nous le voulons ou nous ne le voulons pas, quoi qu'il en soit, le soleil brille sur les bons comme sur les méchants. Mais une chose est certaine, c'est que si nous le croyons, alors nous avons dans notre cœur une espérance vivante et formidable. Notre Seigneur nous soutient, nous garde, nous tient debout. Alléluia! Je crois que nous ne sommes pas joyeux dans la vie, mais donc reconnaissants. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai des circonstances de me réjouir que je suis reconnaissant, mais le contraire. Je suis reconnaissant, quoi qu'il arrive. Et c'est pour cette raison que je suis joyeux. Mes frères et sœurs, notre foi doit s'exercer dans les moments les plus difficiles. Si nous sommes des chrétiens uniquement des bons jours, alors nous ne sommes pas dans la foi. Car la foi, c'est ne pas voir, mais continuer à croire. Alors pour cette nouvelle année, je veux placer toute ma confiance dans le Seigneur. Je veux croire que ce qui paraît impossible va devenir possible. Je veux croire que Dieu va sauver les nôtres. Les membres de nos familles en premier, je veux croire de tout mon cœur que sa gloire va se manifester dans notre vie pour que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Je veux croire aussi que toutes les personnes qui vivent dans ce monde, elles vivent par la volonté de Dieu. Que vous y pensez un peu. Des fois, on est devenu indifférent par rapport à des gens, bon, peu importe qu'ils se perdent, qu'ils ne se perdent pas, mais toutes ces personnes-là, Dieu les a créées. Et nous n'avons pas le droit de dire comme les disciples, renvoie la foule parce qu'il se fait tard. Le Seigneur va leur dire, ils n'ont pas à s'en aller, c'est à vous de les nourrir. Je crois que notre responsabilité, c'est de prendre conscience que tous ces gens qui nous entourent, Dieu les a créés. Dieu a voulu qu'ils soient là, c'est sa volonté. On ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas même, on se demande si c'est possible que ces cœurs changent, mais au fond de nous, il y a une voix qui retentit et qui nous rappelle que nous sommes là par la grâce de Dieu, un résultat d'un miracle. Et que Dieu accomplit des miracles encore aujourd'hui,
Amen.
Et qu'il est capable de faire de magnifiques choses dans le cœur de ceux qui nous entourent. Maintenant, je voudrais quand même être clair, je veux avoir une attitude positive Mais je ne suis pas en train de vous dire, ayez une attitude positive et vous allez voir, tout va être beau, tout va vous sourire, tout va être simple. Certains chrétiens ont vécu des choses horribles, terribles, alors qu'ils étaient dans la foi. Et alors que je méditais pour nous ce matin, je lisais une partie d'un article intéressant sur ce qui s'est passé dans les camps de concentration. Vous savez, j'ai eu en main l'une des prières les plus puissantes, les plus émouvantes qui soient au sein de la souffrance. Et cette prière a été révélée dans les horreurs du camp de concentration de Ravensbrück. Ce camp de concentration, c'était un camp de concentration spécialisé pour les femmes. Et il y avait dans ce camp 90 000 femmes et enfants qui ont péri. Corrie ten Boom a été emprisonnée. Elle a vu sa propre sœur mourir dans ses bras à cause de la barbarie des nazis. Et la prière dont je parle a été trouvée dans les vêtements d'un enfant qui est mort dans ce camp de concentration. Je voudrais vous la lire pour que vous compreniez la foi de certaines personnes. Ô Seigneur, souviens-toi non seulement des hommes et des femmes de bonne volonté, mais souviens-toi aussi de ceux de mauvaise volonté. Mais ne te souviens pas de toutes les souffrances qu'ils nous ont infligées. Souviens-toi plutôt des fruits que nous avons portés à cause de ces souffrances. Notre communion fraternelle, notre loyauté les uns envers les autres, notre humilité, notre courage, notre générosité, la grandeur d'âme qui nous a fait grandir dans ce trouble. Quand nos persécuteurs viendront pour être jugés par toi, que tous ces fruits que nous avons portés soient leur pardon. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, trouvez cette prière près d'un corps d'enfant qui est mort à cause de la barbarie, et de voir que ceux qui ont écrit cette prière, l'ont vécu, n'avaient pas dans le cœur de la haine, du ressentiment, mais ont vu dans leur souffrance se développer une beauté d'âme qu'ils n'auraient jamais eu sans connaître cette souffrance. Non pas que ces choses soient acceptables, mais ce qui s'est passé hier se passe aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain, mais nous savons une chose, c'est que le Seigneur est avec nous, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Et nous pouvons dire, Seigneur, je veux avoir la bonne attitude, celle qui te glorifie, celle qui t'élève. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend demain, mais je sais au moins une chose, c'est que tu es avec moi chaque jour, tous les jours. Amen. Alors, oui, on se glorifie de l'espérance que l'on a dans le Seigneur, mais bien plus, on se glorifie des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire, mais la victoire, l'espérance, et l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Laissons-nous remplir ce matin et prenons les bonnes résolutions pour plaire à notre Seigneur. Merci Seigneur de nous permettre de nous épanouir en toi, et avant de prendre la Sainte-Seine tous ensemble, ce matin, voulons considérer nos voies. Oh, que de progrès ai-je besoin encore de faire, Seigneur ? Que de victoire ai-je besoin de remporter ? Toujours est-il, je veux te glorifier et je veux te louer non seulement avec des mots qui sortent de ma bouche, mais je veux te glorifier par ma vie en étant ce que tu attends, que je sois intègre, vrai, droit, honnête. Seigneur, je veux abandonner le péché, la misère, et je veux adopter le bon comportement. Tu m'en donnes la force, car tu as tout accompli, et ta victoire est certaine. Alors, en faisant le point dans ma vie, je veux te demander pardon pour tout ce que je n'ai pas été, mais je veux espérer et saisir par la foi tout ce que tu mets à ma disposition, car tu es venu pour faire de nous des créatures nouvelles, non pas pour que nous nous installions dans la routine, mais pour que nous marchions de progrès, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Alors bénis mes frères et sœurs, bénis ce groupe que nous formons, bénis les autres qui ont besoin de ta grâce, partout où ta parole est prêchée, donne à tes enfants de réaliser l'importance des temps dans lesquels nous sommes. Oui, nous attendons ton retour, et tout nous dit que tu reviens bientôt. Mais, Seigneur, nous ne vivons pas dans l'avenir, nous vivons dans le présent, et nous nous réjouissons surtout ce matin du fait que tu es au milieu de nous. Tu es présent dans ce lieu, et je te loue pour cela, Seigneur. Tu es présent dans nos vies, et tu nous accompagnes. Accorde cette victoire à chacun, et renouvelle ta paix dans les cœurs. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.